Salut, c'est Stéphane de Proxy Jeux. On est samedi soir au Fiche de Cannes. Je suis avec Mathieu Bonin de chez Yellow, à la salle presse, dans une atmosphère zen. Mathieu, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Mathieu, tu vas évidemment nous parler un petit peu de l'actualité chez Yellow. D'abord, comment ça se passe chez Yellow? Comment ça va?
Ça va très bien. On a fait une bonne année 2015, mais là, l'année 2016, c'est assez incroyable tous les projets qu'on a. Et c'est vraiment un plaisir d'attaquer l'année avec une belle visibilité sur tout ce qui va sortir et de voir chaque jeu et de se dire « Ah ouais, celui-là, je l'attends vraiment ». Donc c'est assez excitant là, ce début d'année.
Ok, alors on va parler d'une rethématisation de 8 minutes pour un empire qui s'appelle donc...
Alors, 8 minutes pour un Empire Legend, c'est un peu plus qu'une rethématisation parce que c'est la suite, on va dire, avec qui reprend le mécanisme principal en le poussant un petit peu plus loin. C'est un jeu qui est attendu par pas mal de gens en français. On a envoyé les fichiers de traduction début 2015, donc il y a plus d'un an, et je vous dis ça, c'était peut-être même fin 2014. Et puis depuis, on a attendu patiemment que la coproduction internationale commence, et là on vient d'avoir la confirmation que le jeu devrait arriver avec la réimpression de 8 minutes, qui était en rupture depuis un petit moment, en avril ou en mai, on sait jamais, mais... là normalement c'est en bonne voie. Le jeu s'appellera en français 18 minutes pour un empire. On s'est dit que c'était rigolo, et puis c'est vrai que c'était en regardant aussi la durée de jeu qui est annoncée autour de 20 minutes. On aura peut-être encore des gens qui nous diront j'arrive jamais à jouer en 18 minutes, mais c'est pour le titre, hein. On n'est pas obligé de jouer en 18 minutes chrono.
De toute façon, je veux pas non plus en 8 minutes, à 8 minutes pour un empire. Oui, ce que les gens comprennent pas forcément, c'est que les traductions, vous faites aussi vite que vous pouvez. Mais par contre, derrière, c'est les fabrications dépendent pas forcément de vous.
Ouais, je parlais tout à l'heure de coproduction internationale. Alors, les retards peuvent venir de différentes sources, mais c'est assez fréquemment dû à ça. C'est-à-dire que un éditeur qui fait un jeu à succès va aller le proposer à d'autres éditeurs qui peuvent le traduire dans leur langue, et pour faire baisser les coûts de production, il va s'arranger pour pas faire des tirages tous les deux mois, donc pour regrouper un petit peu toutes les langues, puisqu'il y a toujours des éléments sur lesquels il n'y a pas de texte, voire sur lesquels il rajoute le texte dans un deuxième temps. Et effectivement, quand ça se passe pas comme prévu, parfois, il y a le polonais qui vient dire moi je suis pas prêt, et puis il y a l'israélien qui dit mais moi ça m'intéresse, attendez-moi, et ça peut prendre du retard. Là, on a eu deux exemples dus à ça en 2015. C'était 8 minutes, et puis c'était Sheriff of Nottingham qui vient de sortir, alors que nous on a envoyé les fichiers il y a très longtemps. Donc c'est un peu frustrant, c'est aussi un peu incompréhensible parfois pour les joueurs, parce que nous, on annonce des sorties, je sais pas, Sheriff, on a dû annoncer 5 fois sa sortie dans 2 mois, parce que c'est les infos qu'on avait avant qu'elles soient démenties par l'éditeur original qui nous dit finalement j'ai dû attendre un autre, ou finalement les fichiers dans telle langue étaient pas prêts, étaient pas conformes. Donc c'est le jeu dans la traduction, on sait qu'on maîtrise moins la production.
Oui, alors ces histoires justement de décalage entre la traduction et la fabrication effective, la mise à disposition pour les joueurs, on la retrouve un peu avec Star Realms, qu'on a attendu pas mal aussi.
Oui, là c'est un autre type de problème, puisque c'est plus des questions de retard dans la production et dans le process de gestion des fichiers de traduction. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que l'éditeur White Wizard est un peu moins habitué à faire de la coproduction internationale et de la traduction que certains de nos autres partenaires, donc ça a traîné un petit peu. Sur Star Realms, on a été assez rassuré par les derniers échanges qu'on a eu avec White Wizard, qui en gros, si ça se confirme, nous laisserait nous occuper de notre propre production dans notre coin, ce qui nous permettrait d'être beaucoup plus réactifs, et donc tout ce qu'on attendrait d'eux, c'est juste les fichiers à traduire.
Alors du coup, on peut espérer voir en France les petites mini-extensions. Il y a eu Gambit, Il y a eu des forteresses, des choses comme ça. Et enfin, une autre boîte autonome qui peut jouer soit de manière en standalone, qui s'appelle Colony Wars, que j'ai, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, qui peut jouer également en extension, mélangeant les cartes avec la première boîte de base.
Oui, notre objectif là, même si on n'a pas encore tous les fichiers, mais c'est de sortir les 5 petites extensions, donc les 4 packs Crysis et le pack Gambit, d'ici cet été. Et de pouvoir enchaîner avec Colony Wars d'ici la fin de l'année. Donc c'est toujours à prendre avec les pincettes, ça va dépendre quand est-ce qu'on reçoit les fichiers, à quelle vitesse travaillent les traducteurs, les relecteurs, etc. Mais à titre indicatif, voilà, je pense, on n'anticipe pas des retards d'un an comme il peut y avoir avec le jeu de base là. Donc ça va se faire dans les mois qui viennent.
C'est un coup de cœur de proxy jeu. Ça va suivre quoi derrière en français. Attendez, soyez patient. C'est un jeu qui marche bien d'ailleurs aussi en version française.
C'est un jeu qui marche très très bien. Il y a eu un départ vraiment canon. On s'y attendait, mais bon, on est toujours. Faut toujours que ça se vérifie dans les ventes. On a presque écoulé le premier tirage en un mois et demi. Et surtout, les boutiques nous en redemandent. Donc, c'est pas juste qu'elles en ont pris plein parce qu'elles pensaient que ça allait marcher et que finalement les joueurs l'ont pas acheté. Il y a vraiment aujourd'hui plein de Star Realms dans la nature et qui vont, à mon avis, séduire encore plus de gens. D'ailleurs. On est en train de lancer le programme de tournoi en boutique qui va s'étaler sur un an et qui va être en 4 phases et qui va permettre de gagner notamment des tapis de jeu exclusifs pour la France et des cartes promo pour les participants et pour les meilleurs joueurs, on va dire, des tournois.
Ça tombe bien, c'était ma prochaine question, si vous aviez aussi faire les tapis de jeu ou s'il y avait moyen à un moment donné de faire une boîte avec un tapis pour ranger un peu toutes les cartes et toutes les mini-extensions.
Ben voilà, le tapis de jeu, comme les cartes promo dans un premier temps, on le réserve au tournoi, aux joueurs qui vont se déplacer en boutique pour jouer au jeu et pour affronter d'autres joueurs. Et puis dans un second temps, on verra pour le proposer à la vente, sur notre site internet, sur des salons, on réfléchira un petit peu à ça.
Alors derrière aussi, chez White Goblin, il y a un autre jeu qui a fait aussi pas mal sensation. Alors à un niveau un peu supérieur, un peu moins, deck building débutant, là, parce que ça on passe au niveau dessus, c'est Epic Card Game.
Ouais, Epic, on est à je sais plus si c'est 99% ou 100% sûr de le faire. C'est... au pire, c'est l'histoire d'une petite signature en bas d'un contrat. Et là aussi, si tout se passe bien, il sortira en 2016, si possible cet été, pour que les joueurs français attendent le moins possible.
Donc ça, c'est une excellente nouvelle aussi pour ceux qui veulent continuer avec White Goblin en français. Alors une autre gamme aussi qui est assez originale en fait au moment de son lancement, c'est la gamme de ce qu'on appelle les mini-jeux, c'est ça, la gamme mini-jeux de chez Yellow, qui est donc en gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte de format assez petit, carton, puis des jeux qui, bon, en boutique on peut le dire, c'est 12€ en boutique, et puis c'est une gamme qui marche très fort en fait.
Une gamme qui marche fort parce qu'elle a réussi à s'imposer en boutique et dans la tête des joueurs. Finalement, en moins d'un an et demi, le premier jeu, c'est Roalway, et c'est novembre 2014. Il a bénéficié tout de suite d'une nomination à l'Asdor l'an dernier. Et puis, on a réussi. En fait, c'est à la fois une gamme qui était pas prévue à la base et qui a quand même été bien préparée, dans le sens où c'est en signant en 2014 plusieurs jeux mini que l'équipe d'édition, notamment Ludovic, se sont dit... Bah, en fait, on pourrait très bien en faire une gamme et les traiter tous un peu pareil, les regrouper pour marquer cette spécificité du minimalisme. Et du coup, on ne l'avait pas calculé, mais on avait déjà pas mal de jeux en stock et de jeux prêts. Donc on a pu, dès le départ, sortir 6 jeux en 6 mois, les enchaîner et du coup imposer la gamme assez rapidement.
Donc là, du coup, vous continuez à peu près sur ce rythme, un jeu à un mois. Enfin bref, il y en a d'autres jeux qui arrivent de toute façon.
Ouais, le coût du un jeu un mois, qui était même pas vraiment un jeu un mois, on va dire un jeu tous les deux mois, c'était vraiment pour le lancement, pour tout de suite avoir une gamme conséquence, et une gamme en fait, parce que si on fait deux jeux qui se ressemblent, bah ça suffit pas à faire une gamme. Si on fait 4-5 jeux qui se ressemblent et qui ont des critères spécifiques, là effectivement, la gamme existe vraiment. L'objectif, c'était effectivement en 2015 de continuer sur un rythme assez régulier, un jeu tous les 2-3 mois. On a eu des retards sur Candy Chaser qui du coup sort en même temps, donc le numéro 7 qui sort en même temps maintenant, en même temps que tout là-haut, le numéro 8. Mais voilà, sur Cannes, on a déjà aussi le numéro 9 qui est Wasabi, qui lui va sortir le 1er avril. Et c'est pas une blague, il sort vraiment cette date-là. Et on a déjà une visibilité sur, on va dire, les deux ou trois prochains titres qui sortiront cette année. Donc, c'est à peu près un tous les trimestres maintenant.
D'accord. Et après, donc, Yellow, toujours des jeux un peu plus gros. De quoi tu peux te parler après qui va arriver dans les mois qui viennent?
Alors, je peux te parler quand même d'Happy Pix parce que c'est notre sortie Cannes, qui est un jeu qu'on a repéré sur SN. En 2014, un petit jeu qui vient de Taïwan, jeu de gestion qui nous a tout de suite plu parce que c'est à la fois très simple et à la fois assez profond. On a des super retours sur le jeu qu'on a relooké avec Biboon dans, comme tu disais, un univers un peu acidulé, un peu cartoon, rigolo. Et moi, je m'attendais à ce qu'on ait des très bons retours, mais je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de retours de gros joueurs en fait. Le jeu est c'est un gateway game comme on dit. C'est facile de faire jouer plein de gens, mais on prend quand même du plaisir quand on est un joueur confirmé. Mais du coup, on a vraiment plein de gros joueurs hein, pour parler de façon familière, qui nous disent bah ouais, en fait c'est vraiment super. Et donc je suis vraiment content du démarrage d'Happy Pigs.
Ouais, justement, cette distinction gros joueur, truc familial, puis maintenant cette espèce de catégorie bâtarde familial plus, t'as quelque chose à dire?
Ah oui, bah ouais, pour la question à la con, quand même, vous avez quand même pas honte de sortir un goodies comme ça pour Cannes, un salon familial, un goodies avec des cochons qui se montent dessus?
Alors, non seulement on n'a pas honte, mais en plus, ça nous fait bien rigoler. Pour la petite anecdote, quand on a édité le jeu, on a demandé à Biboon de nous faire des petits dessins pour chacune des quatre actions, dont une est la reproduction. Et il nous a envoyé ça un peu pour déconner en disant « Eh, ça vous va ?» Et quand on nous a vu ça, ça nous a fait tellement marrer qu'on lui a dit « Bah ok, on va la garder ». Et je crois qu'il n'en revient toujours pas, parce que quand il l'a vu sur le salon, là, il a dit « Ah, ils l'ont vraiment fait, hein, les cons ». C'est assez marrant.
Ouais, c'est bien de pouvoir encore oser des choses et tout ça, pas toujours tomber dans le conformisme. C'est super. Alors justement, oui, moi j'ai une question sur les catégories en fait, parce que on parle toujours de gros joueurs, de familial. Enfin, est-ce que c'est pas des catégories qui finalement sont en train de s'écrouler dans le nouveau marché du jeu tel qu'on le voit, puisque les volumes augmentent, il y a de plus en plus de gens, et puis les joueurs eux-mêmes ils vieillissent, donc ils font des gosses, ils jouent avec d'autres gens que leur cercle de joueurs, qu'ils voient peut-être de moins en moins parce qu'ils ont, ils sont papa, ils sont voilà. Tu crois que c'est des choses qui sont en train de bouger beaucoup tout ça?
En fait, je pense que c'est les lignes sont en train de bouger. Là où avant, t'avais une vraie rupture entre du jeu plutôt pour joueurs et puis plutôt du jeu familial, il y a la catégorie intermédiaire qui prend de plus en plus de place. Et ce qu'on va appeler jeu pour joueurs, jeu gamer, aujourd'hui, ça correspond à la frange extrême des What's Your Game et compagnie, des très gros jeux qui vont séduire que les plus motivés. Et cette tranche intermédiaire, qui souvent n'est pas toujours très bien vue par justement les vieux de la vieille, pour moi, elle prend plus de place, mais aussi parce que les joueurs évoluent et parce que un casual gamer d'il y a 10 ans, c'est pas le même casual gamer qu'aujourd'hui, et que des jeux qui il y a encore quelques années auraient été considérés comme des jeux pour gamers, aujourd'hui avec le niveau, c'est difficile de parler de niveau, mais en tout cas avec les goûts des joueurs plus occasionnels qui ont évolué, on les considère effectivement comme des gamers moins ou des familles plus.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une éducation en fait, du joueur lambda, un petit peu, quoi. Enfin, une éducation, oui, c'est pareil, c'est toujours un peu méprisant, mais bon.
une évolution, en tout cas plus qu'une éducation des individus, c'est plus une évolution qu'on constate globalement. Il y a de plus en plus de joueurs, il y a de plus en plus de gens qui connaissent les jeux, et du coup, bah, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, soit tu étais passionné de jeux, soit tu connaissais pas grand-chose. Je caricature un peu, mais voilà. Aujourd'hui, bah voilà, il reste des passionnés de jeux. Je suis pas sûr qu'il y en ait moins qu'avant. Il y en a toujours autant. Par contre, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent aux jeux, comme moi je m'intéresse au cinéma. J'adore le cinéma, j'adore aller au cinéma voir des films, et d'un autre côté c'est pas toute ma vie, et j'aime bien regarder autre chose que des films obscurs coréens de 4 heures. Donc c'est bien pour nous, je pense, que il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux jeux, même si ces gens sont pas destinés à se diriger vers les jeux les plus extrêmes.
Oui, il y a eu une petite discussion récemment sur Twitter qui enfin des gens qui ont souligné le fait que vous faisiez des jeux peut-être effectivement plus core gamer précédemment, des traductions typiquement, je sais pas, je l'ai cité, des Vasco de Gama, des Madeira, des choses comme ça, qu'on voit peut-être passer un peu plus en arrière-plan maintenant.
Alors il y a plusieurs raisons à cela. C'est vrai, hein, ne serait-ce que What's Your Game que je citais tout à l'heure, dans cet exemple précis. On voulait les traduire parce que c'est des excellents jeux, mais il faut bien se rendre à l'évidence à un moment que sur les derniers, que ce soit Asgard ou Madeira, on a perdu de l'argent. On a perdu de l'argent à faire des VF. Donc, bon, il y a un moment où on est passionné, mais notre but, c'est quand même de pouvoir manger à la fin du mois. Même au début d'ailleurs. Et du coup, voilà, on a une marge de manœuvre un petit peu moins grande. Aussi parce que What's Your Game, bah, ils sont pas bêtes. Ils font des jeux qui sont sans texte. Ce qui fait que c'est des jeux qui s'adressent aux plus passionnés. Les plus passionnés, c'est aussi ceux qui ont pas besoin d'aller en boutique française pour obtenir un jeu. Ils les achètent à Essen, ils les commandent en Allemagne. Enfin, ils savent faire. Donc là, il y a un marché qui pour nous est un petit peu moins rentable. Et aussi parallèlement, tout à l'heure, je vous parlais des aléas de la traduction. Et nous, on se dirige naturellement vers plus de création et un peu moins de traduction. Ce qui ne veut pas dire qu'on arrête la traduction. Les derniers jeux qu'on a pu sortir le prouvent. À commencer par Fruity Edges là, qui sort sur le salon. Je pense pas qu'on puisse vraiment nous reprocher de nous être complètement détourné des gamers, parce que c'est un jeu qu'on avait fait la V2. Là, il y a la V4 qui sort. On se dit, il y a une vraie demande, il y a un vrai intérêt. Nous, on adore le jeu, donc allons-y. On le fait aussi parce que on a estimé qu'on n'allait pas perdre de l'argent dessus. Mais voilà, la tendance naturelle en ce moment, ça va être d'essayer de faire plus de jeux nous-mêmes, et effectivement dans ce qu'on sait faire. Et ce qu'on sait pas faire, c'est pas forcément des gros jeux gamers hyper pointus. Notre gamme de jeux, elle est quand même assez étendue, parce que entre des petits jeux comme tout là-haut dans la gamme mini qui vont s'adresser plutôt à des 7-8 ans, et un Big Book comme qui vient Big Book est sorti il y a pas très longtemps. Pas un jeu pour enfants non plus, voilà, même si il y a la pack graphique de Yellow dessus, on s'adresse plutôt à des joueurs qui aiment bien jouer, qui aiment bien se creuser la tête, voilà, on est sur des jeux de réflexion quand même.
Donc on est quand même pas prêt de voir arriver des jeux Yellow, des jeux vraiment de chez vous, un peu plus core gamer, c'est pas à l'ordre du jour ça.
Non, parce que d'une part on n'en a jamais fait. On sait pas forcément en faire, même si y a une bonne partie de l'équipe qui est fan de ce type de jeu. Et aussi, faut pas se le cacher, pour des raisons économiques, mais aujourd'hui on est une équipe de 18 personnes, on peut difficilement se permettre ce qu'une équipe de 1, 2, 5 personnes font, c'est-à-dire travailler sans revenu pendant un an sur un jeu pour l'équilibrer, pour le développer à fond, pour alors là c'est quand même beaucoup de boulot, hein, ce genre de jeu, et puis ensuite sortir un jeu qui en plus se vendra sans doute un petit peu moins parce qu'il concerne un public plus de niche. Donc moi j'adorerais, hein, mais les réalités de compétences et économiques font que voilà, c'est pas notre métier. Après on est encore une fois, on est content de pouvoir les traduire quand on en a l'occasion.
finalement les traductions seront quand même finalement amorties par le reste des jeux. Si vous faites des traductions sur des plus gros jeux, okay, vous faites pas beaucoup d'argent, mais c'est grâce aux autres jeux, quoi.
Bien sûr, c'est le succès des autres jeux, à commencer par King of Tokyo par exemple, qui nous permettent d'une part de prendre des risques sur des jeux qui mettent un petit peu plus longtemps à être développés. Je pense à Zombie 15 par exemple, qui était au départ un jeu assez atypique et assez risqué, ou de sortir des traductions où on sait dès le départ que même si le jeu marche super bien, c'est pas ça qui va nous faire gagner des millions, parce que il s'adresse à un public plus restreint, et puis parce que quand on fait une traduction, bah, on reverse quand même une partie de l'argent, heureusement, hein, aux gens qui l'ont développé. Donc c'est vraiment un équilibre, et c'est vraiment des jeux à succès qui nous permettent, nous, derrière, de faire des choses qui nous font un petit peu plus plaisir, même si elles sont moins rentables. On reste une équipe de passionnés qui marchons régulièrement sur du coup de cœur et sur du jeu. On les édite parce qu'on aime y jouer, quoi.
Je repense à une chose, là, tu parlais de King of Tokyo. Je sais qu'il y avait, il y a eu dans les tuyaux pendant un temps de monter une structure pour l'adaptation des jeux sur tablette, etc. C'est toujours à l'ordre du jour, ça?
C'est toujours à l'ordre du jour, même si ça avance pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait. Le gros du morceau, c'est l'application King of Tokyo. Je travaille pas directement dessus, donc je peux pas vous dire exactement où ça en est, mais ce que je sais, c'est que c'est pas prêt de sortir. Il y a quand même encore pas mal de boulot, donc je sais pas vers quoi on va évoluer. On a beaucoup de projets de jeux de plateau, enfin de jeux carton, hein, à venir. Et sur le numérique, on cherche encore la bonne stratégie, on cherche encore le bon moyen de faire quelque chose dont on n'a pas les compétences encore en interne.
Il y a eu énormément de bouleversements sur le marché du jeu cette année. Bon, il y a des jeux Asmodée qui grossit, qui enfle. Voilà. Yellow, ça a toujours été un peu un challenger, hein, parce qu'il y a la distribution derrière. Hein. Les gens, ils oublient pas ça. Vous êtes aussi distributeur. Comment ça se passe, justement, par rapport à tout ça, en fait? Comment vous sentez? Enfin, ça va bien, parce que vous avez annoncé le doublement de la capacité de stockage à la soirée, mais bon.
Bah, c'est vrai que nous, on suit un peu notre petit bonhomme de chemin. Comme je disais, on a fait une bonne année 2015. On s'attend à faire une année 2016, pas dire exceptionnelle, parce que c'est toujours un peu présomptueux de le dire à l'avance. Mais je pense que, enfin, on a en tout cas des grosses attentes sur l'année 2016. Après, effectivement, on voit ce qui se passe sur le marché. On a une analyse de professionnels sur le sujet, donc je pense que Asmodée c'est tout à fait ce qu'il fait pour l'instant, pas directement impacté, on va dire. Les changements sont pas concrets dans notre activité, donc on continue à surveiller ça et à voir quelle est la part de menaces ou de bienfaits que ça peut comporter, puisque je pense que Asmodée, malgré le fait que ce soit effectivement des concurrents, on leur doit beaucoup sur le marché, sur le développement du jeu en France. Donc on va voir comment ça évolue et puis ce que ça implique pour nous. Et pour l'instant, on fait ce qu'on a à faire et puis on continue à progresser, donc on est content.
On va arrêter de parler un petit peu business, on va revenir un peu au jeu. Il y a un truc que vous allez commencer à lancer là, qui s'appelle Océanos, avec Antoine Boza. Antoine, dont c'est je crois, le premier jeu chez Yellow, il me semble.
Oui, tout à fait. On a une autre collaboration avec lui sur Welcome Back to the Dungeon. On parlait de la gamme mini tout à l'heure, donc celui-là on l'attend aussi. Mais Océanos, c'est notre premier vraiment jeu d'Antoine qu'on signe avec lui. On est très content parce que c'est un jeu qu'on aime beaucoup. C'est un jeu, alors on parlait de catégorie tout à l'heure, c'est un jeu familial. Je le présente toujours comme un jeu familial et puis après je l'explique et à la fin de l'explication je me dis bon d'accord, c'est quand même pas si familial, parce que je vois la tête de mon interlocuteur qui me dit ah bah, quand même il y a des règles, il y a pas mal de choses, donc on est dans du familial plus, hein, pour reprendre des termes qu'on utilise de plus en plus. Le principe du jeu, c'est qu'on a tous un petit sous-marin et on va aller explorer les fonds marins. Il y a un système de draft assez, assez intelligent où il y a un donneur qui change à chaque tour, qui va donner un certain nombre de cartes à chacun des joueurs en fonction de leur sous-marin. Les joueurs choisissent une de ces cartes qu'ils vont garder pour explorer, explorer les fonds marins, et ils vont rendre toutes celles qu'ils ne gardent pas au donneur qui, lui, va choisir parmi toutes ces cartes. Donc généralement, le donneur choisit parmi plus de cartes, mais qui sont que des cartes que les autres n'ont pas voulu garder. Voilà, il y a plusieurs, plusieurs principes qui font que le jeu est assez attirant. Le thème, que je trouve moi assez, assez frais, les mécaniques qui sont même où il y a un peu de profondeur. Ah, les jeux de mots, quoi, un peu frais, profondeur, pour un jeu qui se passe dans l'eau. Les illustrations de Jérémy Fleury qui sont magnifiques. Et puis plein de petites gimmicks. Donc le système de quasi-draft dont je vous parlais là, hein, qui est inspiré du draft, qui marche très bien parce qu'il y a des choix du coup dans qu'est-ce que je lui donne, qu'est-ce que je garde. Le côté d'évolution du sous-marin, on a tous un petit sous-marin composé de 5 pièces de puzzle, et on va pouvoir durant la partie faire évoluer chacune de ces pièces pour voir plus de cartes, pour gagner des points à la fin de chaque manche, pour pouvoir scorer plus de points sur certains types de scoring. Donc il y a vraiment un côté très agréable à manipuler et à jouer. On voit devant soi les fonds marins apparaître. Chaque joueur à la fin de la partie a un espèce de paysage sous-marin avec des animaux, avec des coraux, avec des coffres trésors, etc. Et on le voit se dessiner petit à petit. Et donc c'est vraiment une expérience visuelle et ludique très sympa. Il y a pas longtemps, Bruno Feiduti disait sur Twitter qu'il pensait que c'était son Bosa préféré. Il me semble qu'Antoine lui avait répondu, je me demande si c'est pas le mien aussi. Et du coup, on espère que ça sera le cas pour plus de monde. C'est en tout cas, nous on aime beaucoup.
Est-ce qu'il y a un autre jeu auquel tu penses que t'aimes beaucoup, un projet que toi tu suis?
Ouais, moi le jeu, alors on a beaucoup de projets, hein, je vous disais, mais j'en cite deux. Il y en a un, je me m'attarde pas dessus parce que c'est de la traduction et vous avez déjà entendu en parler. C'est Codenames qu'on va traduire. Il devrait sortir en français en mai. Et j'invite les gens à se renseigner un petit peu, mais c'est vraiment vraiment une tuerie. Et mon petit chouchou, moi, dans les jeux qui viennent, c'est une sortie des scènes qui s'appelle Bunny Kingdom, qui est encore un jeu de draft. On aime bien le draft cette année chez Yellow, mais à chaque fois avec un petit angle différent. Là, c'est un jeu de draft avec un plateau, donc on va drafter des cartes qui vont nous permettre de se positionner sur le plateau. C'est un plateau avec un espèce de damier de 10 cases sur 10. Chaque case va représenter, c'est un royaume qui est représenté. Donc il y a différents terrains, il y a des montagnes, il y a des champs, etc. Et je dis terrain parce que c'est un jeu de Richard Garfield. Et du coup, il y a un système assez malin de scoring où à la fin de chaque manche, on va combiner le niveau des villes sur les cases qu'on contrôle avec le nombre de ressources différentes qu'il y a dans cette zone-là. Et du coup, c'est vraiment des sensations de jeu que j'aime bien parce que il y a les choix du draft. C'est toujours intéressant le système de draft. Je trouve qu'il amène des choix qui sont toujours assez tendus avec la stratégie géographique, j'ai envie de dire, d'un plateau en termes de blocage, en termes d'expansion, en termes de diversité des ressources qu'on va avoir sur le plateau. Et tout ça dans une partie qui est assez rapide parce que tout se fait en même temps dans le draft, donc on joue en moins d'une heure et du coup ça fait on a envie d'en refaire une souvent, enfin moi en tout cas j'ai envie d'en refaire une régulièrement.
Et en plus il y a des lapins.
Et en plus il y a des petits lapins, il y a des petits lapins guerriers, des petits lapins marchands, des petits lapins rois. C'est très mignon, c'est Paul Mafaillon qui a illustré et je suis vraiment fan des illustrations.
Coup de cœur de Mathieu. Moi, j'ai un petit truc, j'ai demandé à Ludovic, c'est les Parsley Games, qui est un projet de la boîte à eux, en fait, qu'il a réussi à importer chez Yellow. Tu peux nous en dire deux mots?
Ouais, bien sûr, il a pas eu de mal à l'importer, hein, parce qu'on est aussi tous fans du concept. Les Parsley Games, c'est une sorte de jeu de rôle, on va dire, inspiré des premiers jeux vidéo textuels. où en gros il fallait qu'on écrive les différentes actions, les différentes commandes.
Ouais, pour ceux qui connaissent pas, c'est les tout premiers jeux d'aventure avant même la souris. Hein, c'était vraiment sur Amstrad, CPC, genre SRAM, SRAM 2, les passagers du vent, le passage du temps. Enfin, moi, c'est mon enfance, c'est pour ça que j'adore.
Voilà, je vois que tu t'y connais même encore plus que moi sur les vieux jeux vidéo. Et du coup, le principe là, c'était de transposer ça en jeu tabletop, en jeu de rôle. Donc, il y a un maître du jeu qui connaît le scénario. Et les autres joueurs qui vont donner des commandes basiques, aller à l'ouest, fouiller la salle, prendre la clé, utiliser le gourdin sur le garde, enfin voilà. Mais qui vont pas avoir le droit de communiquer entre eux. Donc chacun, c'est coopératif, hein, du coup chacun va donner une instruction et puis ensuite ça va être le joueur suivant. Et il va falloir qu'ils arrivent à... Souvent c'est des scénarios un peu à... Pas à énigme, mais il faut arriver à aller jusqu'à la fin du scénario en utilisant les bonnes commandes. Et du coup, c'est un peu infini comme principe parce que le concept est simple et que tout va venir d'après du scénario. Du coup, Ludovic a demandé à des auteurs connus ou qu'on aime bien de lui écrire des scénarios. Il y a des auteurs de jeux de société, il y a des auteurs de jeux de rôle, il y a un petit peu, il y a même, ouais, enfin, il y a, vous verrez, mais l'objectif c'est de faire un recueil de 10 ou 15 scénarios de difficultés différentes pour faire découvrir le principe et puis pour pouvoir, pourquoi pas, ensuite en sortir d'autres. Mais voilà, déjà, proposer ça au maximum de monde, puisque tu disais tout à l'heure que Ludovic avait déjà publié le principe quand il travaillait, enfin voilà, sur la boîte à eux. Donc c'était un petit livret, mais... Voilà, il en a fait quelques centaines d'exemplaires et voilà, on pense que ça mérite d'être diffusé plus largement.
C'est ça, oui, non, je les ai tous. Voilà. Bon, bah merci, c'est bon. Bah sinon, merci Mathieu et puis bon salon.
Merci beaucoup et puis à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.